Ben c'est parti, l'automne est à nos portes, littéralement, avec des des 40 avec Humidex cette semaine. On est vraiment sur le bord de l'automne, c'est fou de même. Blague à part, des records de chaleur qui ont été établis pour la période de temps à laquelle on est. Parce que non, ce n'est pas la première fois qu'il fait chaud. Il a déjà fait chaud dans les années 40, comme il a fait chaud cette semaine. Mais c'est ça, c'est que c'est des records de chaleur battus d'il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans. Le mois de juillet, le plus chaud jamais enregistré, entre autres. Juillet où? Je viens de le dire, puis j'ai comme eu un petit doute, mais le mois le plus chaud jamais enregistré de l'histoire de la planète. Si c'est pas juillet, c'est où, mais... On est un petit peu en avance sur les prévisions de réchauffement de la température. Ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. Et l'une des causes, ou plutôt l'une des conséquences, qu'a le fait que les températures sont de plus en plus chaudes, c'est tout ce qui a trait à la sécheresse, tout ce qui a trait au fait que, parce que tout est plus sec, tout pogne en feu plus rapidement. On l'a vu cet été, partout au Canada. Québec, il y a notamment la ville de Chibougamau qui a été évacuée parce que des feux arrivaient. Heureusement, Chibougamau n'y est pas passé, mais il a fallu quand même déménager temporairement 7500 habitants parce que le danger arrivait. Et on a appris cette semaine que non seulement la sécheresse a fait en sorte que le feu est arrivé extrêmement vite, mais qu'il y aurait peut-être une cause humaine derrière ce feu-là en particulier. Cette naissance de site-là, disons ça comme ça. Parce que non... Ce n'est pas non plus un laser perçant qui a visé très exactement cette zone-là pour mettre le feu. Ce n'est pas non plus des pompiers qui ont allumé volontairement ces feux-là. Du moins ceux-là en particulier. Parce qu'il y a des images qui ont circulé de... Pas des hélicoptères, mais en tout cas des appareils qui mettaient le feu à certaines forêts. On disait « voici les causes des feux qu'on a en ce moment ». Or, c'est faux. Ces images-là dataient de quelques années. Et que c'était lors d'un incendie contrôlé et programmé que ce feu-là avait été allumé. Donc, que c'était prévu qu'il y avait des pompiers sur le coup. Je ne veux pas m'avancer, mais il me semble même que c'était un exercice. Quoique ça peut seulement être parce qu'on voulait brûler cette section-là de forêt. Évidemment, non identifiée sur les images, comme ça peut être un peu n'importe où. Mais que parfois, on a recours à brûler des quantités de forêt, mais encore une fois, sous contrôle. Là, dans les cas des feux, notamment à Chibougamau, c'était hors de contrôle. Qu'on fait venir des pompiers de d'autres pays. C'est assez hors de contrôle. La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de 37 ans ce jeudi à la suite d'une enquête minutieuse relativement à les incendies survenus dans le secteur de Chibougamau. Rien n'indique que le suspect Brian Paré est à l'origine des principaux feux qui ont forcé l'évacuation de la ville en juin. Par contre, L'homme de 37 ans a comparu jeudi en fin d'après-midi au palais de justice de Chibougamau par visioconférence devant le juge pour faire face à deux accusations d'incendie criminel. Grâce à des techniques d'enquête qui sont complexes et spécifiques qu'on peut utiliser en 2023, plusieurs technologies sont mises de l'avant pour nous aider dans notre travail. D'un côté, on a fait appel au département d'analyse du comportement ainsi qu'au profileur. Au profileur et un psychologue judiciaire, tous se réunissent ensemble à faire en sorte qu'on a été en mesure de cibler Brian Paré, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec. Pourquoi on n'a pas la raison? Les feux 334 et 379 qui nous ont donné du fil à retordre cet été ont vraiment été allumés par cause naturelle. Par contre, il y avait plusieurs petits feux dont on ne parlait pas, mais qui étaient d'origine douteuse. Il était vêtu d'un habit de travailleur, selon l'acte d'accusation. Le résident de Chibougamau aurait mis le feu à des forêts entre le 8 juillet et le 5 septembre, ainsi qu'à une cabane à pêche le 31 mai. La SQ a été en mesure de mettre la main au collet de l'individu après plusieurs semaines d'enquête. Donc, comme on le dit, si le 334 et le 379, parce que là, on avait numéroté les feux rendus là, quand on est rendu à numéroter les feux, c'est un signe qu'il n'y a rien qui va bien. Ces deux-là en particulier, effectivement, il n'y avait pas de cause autre que naturelle, ou en tout cas qu'il y avait eu raison de croire que ce n'était pas quelqu'un qui l'avait volontairement allumé, versus les incendies que lui a débutés, donc s'il a mis le feu notamment à certaines parties de forêt, et une cabane à pêche. Parce que la cabane à pêche, rien n'empêche que les tisons partent au vent. Et ces mêmes tisons-là déclenchent d'autres feux. Parce que justement, le secteur était particulièrement sec dû justement à cette chaleur excessive ou du moins à cette absence de pluie depuis quelques semaines à ce moment-là. Donc on a peut-être une première piste de solution. Ben, une première piste de réponse, j'aurais plutôt dire, pour le secteur de Chibougamau. Évidemment, faire le tour des réseaux sociaux de Brian Paré, on se rend compte que t'es peut-être un petit peu adepte de ces théories de conspiration-là, d'être fan notamment des farfadias, comme ils veulent se faire appeler, qui ont notamment été mis en cause comme problématique lors du convoi qui a paralysé Ottawa en février, il y a 2 ans. Et pour faire suite à tout ça, les organisateurs de ce fameux convoi, de ce blocus-là qui a été fait à Ottawa, étaient en cours cette semaine pour justement débuter leur procès pour les mettre en accusation d'avoir voulu fomenter ce climat de tension-là, d'avoir encouragé les gens à commettre des actes criminels, ne serait-ce que d'avoir bloqué le centre-ville pendant presque un mois. Donc voilà pour ça. C'est difficile à expliquer au sens de pourquoi du jour au lendemain on se lève et on veut mettre le feu à tout. Dans ce cas-ci, il y avait un autre article qui révélait notamment qu'il y avait déjà eu des démêlés avec la justice, notamment avec des troubles à l'ordre public. Donc, ce serait quelqu'un qui a des problèmes à vivre en société en général, sans vouloir supposer non plus. Mais si on est rendu, c'est ça, avoir un profileur et un psychologue à aller enquêter sur un cas parce qu'il faut trouver la bonne personne pour essayer de l'empêcher d'en faire d'autres, parce que c'est jusqu'au 5 septembre, c'était jusqu'au début de la semaine, fait que il y avait peut-être des traces de il était pour en faire d'autres, sait-on jamais. Donc dans son cas lui, tant mieux si ça a pu se régler. Encore une fois, ben la réalité dépasse la fiction au sens où ce n'est pas nécessairement les accusés habituels des théories de complotistes qui disent que c'est des feux artificiels et tout ça, mais dans ce cas-ci, dans son cas à lui, faudrait dire, il a possiblement contribué sans nécessairement être celui à l'origine des plus gros feux. Et là, la nuance est importante. C'est pas lui qui a mis le feu aux forêts de Chibougamau. Mais il a causé certains incidents qui peuvent avoir alimenté les plus gros feux. Peut-être ce qui est... Peut-être ce qui serait la nuance la plus importante à faire dans ce cas-ci. Alors voilà. Donc, en plus, justement, de la température qui ne donne pas grand... qui donne pas grand répit, ou en tout cas, là, pour l'instant, dans les prochains jours, prochaines semaines, on devrait retrouver des normales de saison. Donc, on devrait perdre l'humidité ambiante, du moins, on l'espère. Ça va faire un peu de bien, parce que là, c'est quand même des journées chaudes qu'on a depuis quelques jours. Et justement, c'est pas pour aller en s'améliorant. Comme on le disait, bon, les mois sont de plus en plus chauds. On le remarque un peu tranquillement, pas vite. On décale les températures d'à peu près un mois. Au sens où il a fait relativement frais au mois de juin. Juillet, ça remontait. Juillet, ça allait. Puis là, les canicules, que normalement, on aurait peut-être plus dans un fin juillet, début août. On l'a eu début septembre. Comme si, justement, toute cette météo-là était toujours décalée un peu. Ce qui fait en sorte qu'il faut revoir... faudrait revoir nos habitudes, mais, encore une fois, s'il faut aller jouer dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde, lui dire va falloir se priver... Ou va falloir faire davantage attention. Là, quand ça commence à toucher au confort des gens, ça devient un petit peu plus difficile. C'est à voix haute. Pierre Fitzgibbon disait, faudrait peut-être taxer le millage. Tu sais, les gens qui font ben du millage, faudrait peut-être mettre une petite taxe là-dessus, là, tu sais, au kilométrage. Quand le lendemain, son premier ministre, François Legault, vient dire très clairement « Non, non, il n'y aura pas d'autres taxes, là. On va se calmer les taxes, là. Peut-être quand je ferai un cinquième mandat, on en reparlera. » Parce que toujours très humble, François Legault se voit encore au pouvoir dans 14 ans, à peu près. Donc, grand bien lui fasse, mais les chances sont un peu minces de ce côté-là. Quoique... Sait-on jamais, parce que en ce moment, l'alternative à la CAQ elle est assez difficile à déterminer, puisque si on peut donner quelque chose à François Legault, c'est bien d'avoir réussi sa coalition, au sens où il parle autant à d'anciens libéraux, autant qu'à d'anciens péquistes, ce qui fait en sorte qu'il réussit à ramasser une masse assez globale que pour que son... nos positions idéologiques soient uniquement Québec solidaire. Parce que le Parti québécois et la CAQ, la différence, c'est à peu près la souveraineté. La différence entre la CAQ et les libéraux, les deux se vendent d'être le parti de l'économie. Après ça, si justement la CAQ a réussi à englober les deux anciens partis, ça commence à devenir difficile de devenir « Ah oui, nous, on va être vraiment l'alternative ». Ça, entre autres, pourquoi il y a personne en ce moment qui veut se présenter pour être le chef du Parti libéral. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On s'arrête là-dessus pour l'instant. Au retour, la suite de cette actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service, ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIS 94.3 à Québec. L'envol de Maude Audet qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Comme je le disais un petit peu avant la courte pause, le confort de tous et chacun. La question avait été posée cette semaine dans la nouvelle émission de Gérald Filion à RDI, où il reçoit différentes personnalités pour jaser d'actualité. Et justement, à propos du confort de tous et chacun, de se poser la question, est-ce qu'il fallait être plus radical avec certaines mesures, au sens où justement de taxer les longs déplacements excessifs et des choses comme ça. Évidemment, le consensus est que ça serait difficile à prouver et à faire. Au sens où commencer à surveiller le kilométrage de tous et chacun pour donner une taxe à la fin du mois. Et encore là, comment est-ce qu'on calcule ça? À qui on envoie la facture, etc. Donc, c'est plus théorique que d'autres choses. La question se vaut quand même, au sens où est-ce que ça serait si mal que ça de voyager moins? Pas nécessairement. En ce moment, dans le monde, il y a plusieurs pays qui commencent à ajouter des taxes aux voyageurs parce qu'il y a trop de touristes. Notamment en Europe, il y a certains pays qui vont demander un petit montant supplémentaire lorsque vous arrivez dans leur territoire parce que justement, il y a trop de touristes. Des files et des files qui ne cessent de durer pour aller visiter certains monuments et tout ça. Il y en a de plus en plus. On l'a vu cet été, on en a entendu parler cet été, du moins. Il y a eu de la congestion au sommet du monde. Il y avait trop de gens qui voulaient monter le mont Everest, qui avaient un bouchon de gens rendus en haut. Muraille de Chine, ça devient impossible d'y aller. Ou si on veut y aller, ou si on veut se faire prendre en photo avec un archétype, ben, y a un policier qui dit « Tu prends une photo et tu dégages. » Donc, il y a trop de touristes. En train de dire qu'il ne faut pas voyager. Contraire. Est-ce que c'est obligatoire de faire un voyage chaque année? La question peut se poser. Est-ce qu'on peut espacer ces voyages-là? De toute façon, les compagnies aériennes, c'est pas ce qui est au plus stable non plus niveau service. Qu'on pourrait leur donner un break. Déjà là, ça fait quelques avions en moins qui se déplacent, mais plus localement. Certaines théories extrêmes vont dire que le nouveau plan des gouvernements, c'est de faire des villes de 15 minutes. Au sens où, si on ne peut pas avoir accès à tout ce qu'on a de besoin dans un rayon de 15 minutes, ben il y aurait des gardiens de sécurité qui vous empêcheraient de sortir de votre quartier au-delà de 15 minutes. Évidemment, ça, c'est la théorie extrême de la pandémie, le plus gros de la pandémie est passé, fait que faut se trouver d'autres sujets. Mais en même temps, pourquoi ça serait mal d'avoir accès à tous les services dont on a besoin dans un rayon de 15 minutes? Au sens où, dans quel... En fait, restons très localement. Dans quelle idée c'est bien d'aller faire son épicerie à plus de 15 minutes de chez soi? Au sens où j'irai pas nécessairement faire mon épicerie au IGA à Fleurimont si je reste à Rock Forest. Un exemple pour Québec, j'irai pas faire mon épicerie à Beauport si je reste à Sainte-Foy. Les distances, pas tout à fait les mêmes, mais en voulant dire pourquoi j'aurais besoin d'aller tant plus loin que ça si mon IGA Super C Maxi Loblase Métro est à proximité. Pharmacie, même chose. Ils sont à peu près toutes dans le même secteur, les unes à côté des autres. Fait c'est assez rare de devoir faire une demi-heure de voiture parce qu'on veut aller à sa pharmacie. Surtout si c'est pour s'acheter genre des Band-Aid, des Diéchelon, du sirop pour la toux et that's it. Fait que tu sais, c'est pas mauvais. Après ça, allons un peu plus petit. Des dépanneurs. Prendre son auto pour aller au dépanneur. Le classique, prendre son gros Ford F-150 pour aller chercher une pinte de lait au dépanneur. Ça serait quoi de marcher 15 minutes puis de revenir? Tu sais, c'est pas complètement mauvais non plus. C'est sûr que après ça, il y a des gens qui vivent dans différentes villes et qui veulent aller voir leur famille qui restent dans d'autres villes. Ça, c'est correct. Si le transport en commun avait du sens, ça pourrait être un meilleur incitatif que de devoir prendre son auto à chaque fois. Malheureusement, le transport en commun, c'est pas l'affaire qui fait le plus de sens au Québec. Surtout que notre province est faite sur le long. C'est passé d'une ville à une autre. Même, je prends l'exemple de Sherbrooke seulement, la ville est faite sur le long. Encore une fois, mon exemple, Rock Forest-Sherbrooke, c'est de traverser la ville pendant 20-25 minutes, même si le pont de la Terrille est réouvert. Parce qu'ils ont fini par finir le rond-point. Mais encore une fois, quelqu'un qui reste dans Saint-Roch à Québec, pourquoi il irait au dépanneur, à la pharmacie ou à l'épicerie dans Beauport? Saint-Roch-Beauport fait un petit peu plus Rock Forest-Fleurimont, mettons. Fait que tu sais, commerce de proximité, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Fait que non, il n'y aura pas de douane entre les villes. On n'est pas dans un étrange film ou dans un genre de Game of Thrones avec différents secteurs à protéger. Il reste toujours bien la haute ville, la basse ville, l'est et l'ouest de Sherbrooke. La haute ville, la basse ville à Québec. Les autres rives. C'est Lévis. Quoique, si cette théorie de 15 minutes avec des douanes entre les villages existait pour vrai, ce serait un argument béton pour empêcher le troisième lien de se faire. Je dis vague et je dis niaiserie, mais l'idée reste que d'avoir la possibilité de marcher davantage, qui est aussi bon pour la santé, que de prendre son auto pour aller à l'épicerie, ça ne peut pas être une mauvaise chose. Oui, on a un climat, température, etc. spécial. On veut prendre son auto parce qu'on ne veut pas marcher dans la pluie, marcher dans la neige. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture dans la vie et qui le font. D'où je reviens à ma question du début. Toucher à son petit confort personnel, qui veut vraiment faire ça? C'est pas pour être mauvais. Mais ça reste quand même que ça serait quand même que ça pourrait être une certaine piste de solution de faire attention, mais qu'au moins ça soit aidé par l'environnement également, qu'on soit pas non plus lâché lousse et faites ce que vous voulez. Ce serait pas l'idéal non plus. Enfin bref, on s'arrête là-dessus. Au retour, la suite de ce deuxième service de cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et le 94.3 Chiz à Québec.
La bif fait pas le moine pour des drôles de moineaux. La bif fait pas le moine pour des drôles de moineaux. La bif fait pas le moine pour des drôles de moineaux. Des drôles de moineaux. Des drôles de moineaux.
On dresse comme on gaspe, pif, clarasse. Drôle de moineau, moineau, vates, all dress. Notre plumage est le swell. Ils vont perdre leur merde et leur bec, tout se merde.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Bonsoir chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben.
Dans le cadre du sommet étudiant, Chiz 94.3, Impact Campus, l'Acadel, l'Allier et l'Université Laval vous présentent une série de balados du 11 septembre au 9 octobre. Rejoignez des discussions enrichissantes sur la santé mentale, la santé financière, l'inclusivité, les aspects pédagogiques et les services à la communauté. Découvrez de nouvelles perspectives et des solutions innovantes pour rendre votre expérience universitaire exceptionnelle. C'est tous les lundis de 10h à 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Là, je sais pas. Je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras. T'es encore là, t'es encore là. Là, je sais pas. Fais-toi en pas.
De retour au deuxième service, avait lieu cette semaine le rassemblement du Parti conservateur pour que ses membres décident, ou en tout cas votent, en gang, sur quoi Elle et elle voudraient que le prochain, ou plutôt la prochaine élection, ait pour thème, ait pour sujet, etc., etc. Donc, Pierre Poilievre était en ville pour rencontrer bon, ses membres, rencontrer sa gang, faire un petit numéro de stand-up comique, puis justement assister à ces rencontres-là pour voir de quoi les membres de son parti avaient envie que ça soit traité. Bon, là-dessus, évidemment, il l'a dit lui-même, quand même que le parti veut adopter certaines choses, c'est lui qui a le mot final à la fin. Donc, s'il y a certaines politiques qui sont décidées en assemblée jeudi, vendredi, ben, OK. Mais ça ne veut pas dire que Pierre Poilievre va être obligé de les prendre. Idéalement, il va les prendre, mais il n'est pas forcé de le faire. Surtout si c'est des trucs qui pourraient le mettre dans le trouble, lui faire perdre des points au final, etc. Parce que, faut pas l'oublier, mais le Parti conservateur, c'est deux partis qui se sont unis un moment donné pour réussir à battre les libéraux. Et ils ont réussi leur pari. Ces deux partis conservateurs, qu'il y en ait un qui est plus économique et qui l'autre qui est davantage social. Et règle générale, les conservateurs sociaux s'accordent un petit peu moins bien avec le reste de la population. À toujours vouloir revenir notamment sur des questions d'avortement, des choses comme ça, ben c'est sûr que pour tout l'autre spectre politique ne sera jamais enclin à voter pour. Ceux qui sont un peu hésitants vont se faire dire « fais pas ça ». Donc, c'est de trouver le juste équilibre entre conservateurs sociaux et conservateurs économiques et surtout de réussir à faire l'unanimité. Pour l'instant, Pierre Poilievre semble faire, malgré tout, malgré qu'il y ait eu certains dissidents, notamment Alain Reyes, qui a claqué la porte du Parti conservateur parce qu'il ne voyait pas en Pierre Poilievre le chef dont il croyait que le parti avait besoin. Dans son cas, Poilievre a réussi à prouver le contraire, mais en même temps, on continue quand même à rester un peu prudent. Parce que tant qu'évidemment, la plateforme conservatrice n'est pas officialisée, quoi qu'elle ne le sera pas, évidemment, avant un bon moment, parce que stratégiquement parlant, de sortir tout de suite leur programme au grand complet, ce serait de donner des munitions à tous les autres partis d'opposition pour justement faire du millage sur le fait qu'ils ont dit telle affaire, telle affaire, telle affaire, comment défendez-vous si ça, ça, etc. Donc, cette période de vote-là donne notamment le droit de voir des gens qui vont vouloir poser des questions sur les questions transgenres, sur des choses comme ça. Et évidemment, ben, ça manifestait vendredi matin pour dire « relaxez-vous, arrêtez d'être les conservateurs que vous êtes ». Parce qu'évidemment, l'un des messages qui revient souvent également dans le discours de Pierre Poilievre et qui ça risque d'être dans le programme conservateur, c'est notamment tout ce qui a trait à la taxe carbone. Parce que le plus grand des plaisirs de Pierre Poilievre, c'est de dire que Justin Trudeau monte le prix de l'essence avec la taxe carbone. Mais oublie toujours cette petite mention que lorsque l'on détaille le dollar 80, parce qu'en ce moment, à Sherbrooke, l'essence est à peu près une pièce 80. Québec, ça doit être à peu près des mêmes eaux, c'est à peu près aussi cher d'habitude. Entre 1,78 et 1,82, tout dépendamment de la station. C'est que là-dessus, oui, il y a un 30 sous qui va à la taxe carbone. Mais sur la pièce 80, il y en a au moins 75 cents. Là, j'y vais à peu près, mais tu sais, il y en a quand même un bon montant qui va directement dans les raffineries. Parce que ce qui a le plus augmenté le prix de l'essence dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est les raffineries qui chargent le gros prix et pas seulement la taxe carbone. Parce qu'on enlève la taxe carbone et l'essence reste quand même à 1,50, 1,60. Fait que c'est pas ça qui fait en sorte que l'essence va revenir à 1,10 dans ses bonnes journées. Ce n'est pas vrai. Ce sont les pétrolières et les raffineries qui chargent le gros prix à la base. Donc, si eux étaient réglementés, chose que probablement les conservateurs ne feront pas nécessairement, ben déjà là, de charger trois fois le prix qu'il chargeait il y a 3-4 ans. Qu'est-ce qui a changé tant que ça dans le prix de l'essence, à part que des fois, il y a un petit peu de rareté, mais encore là, quand l'essence est rare, c'est pas là que ça monte le plus. Le classique monter le prix de l'essence avant un long congé, ça existe encore. Qui monte l'essence dans les grands congés? C'est les raffineries et les pétrolières. C'est pas la taxe carbone qui soudainement fluctue parce que le congé de Pâques arrive. Fait que voilà, il y a toujours cette espèce de petite demi-vérité-là que tient qu'on entend dans le discours de Pierre Poilievre. Et malheureusement, force est de constater que ça fonctionne relativement bien. Outre son numéro d'humoriste qu'il a fait, il s'en est pris également à Yves-François Blanchet du Bloc québécois étant dans la ville de Québec. Bon, ironiquement, la ville de Québec vote majoritairement conservateur et libéral à deux occasions, mais ça reste quand même 9, parce que la RAS a quitté, mais 10 comtés qui sont dans la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Fait que, de dire que le Bloc est pas fin et qu'ils sont des alliés de Justin, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, ben, ça fait en sorte qu'on se demande quelle mouche a piqué Pierre Poilievre d'attaquer autant Yves-François Blanchet. Parce que s'il y a bien une menace qu'il n'y a pas au niveau fédéral pour les conservateurs, c'est bien le Bloc québécois. Au sens où le Bloc et le Parti libéral, entre eux, se disputent des circonscriptions. Les conservateurs au Québec dépassent à peu près jamais, ou en tout cas pas souvent, capitale nationale Chaudière-Appalaches. Peut-être... Ah non, c'est vrai, ils ont Chicoutimi aussi. Avec le cas des remparts, dont j'oublie le nom en ce moment. Pas des remparts, mais des Saguenay. Fait que oui, cette section-là du Québec va être un peu plus encline au Parti conservateur. Mais après ça, pour faire des gains, c'est pas en espérant gratouiller des votes au Bloc québécois que les conservateurs vont réussir à passer devant. Parce que, règle générale, si le vote s'effrite un petit peu du côté Bloc, c'est pour profiter aux libéraux et non pas aux conservateurs. Donc, de l'avis de plusieurs, et je partage aussi l'avis de ces experts, le Bloc québécois n'est pas vraiment une cible pour le Parti conservateur. Les libéraux sont un peu plus dangereux parce que plus les libéraux ont de sièges, évidemment, moins de chances les conservateurs ont de passer. Donc, la vraie lutte au Québec se situe entre le Bloc et le Parti libéral et, à quelques exceptions près, le NPD peut être concurrentiel, même si tout ce qui leur reste, c'est quand même encore Alexandre Boulris à Montréal. Mais en dehors de Boulris, il reste à peu près plus rien du NPD au Québec. Même si il est relativement concurrentiel dans certaines circonscriptions. Peut-être pas encore au point de repasser devant les libéraux ou les bloquistes qui ont ravi les sièges, mais quand même. Donc, Pierre Poilievre, toujours dans ses demi-vérités, s'amusait de dire « Où est Yves-François Blanchet aujourd'hui? Il est en Espagne. Il va parler de l'indépendance de la Catalogne. Si je vais dans la rue et demander quelles sont vos préoccupations, ben, les gens ne diront pas la Catalogne. » Je comprends l'idée. Ah oui, puis il y a eu l'audace d'aller en Espagne en avion en plus. Et là là! Justin aussi, puis oh par hasard, le ministre de l'Environnement qui va à une conférence sur l'environnement dans un autre pays a aussi pris l'avion. Ça a-tu pas d'allure, rien qu'un peu? Bon, pour la conférence, effectivement, ça aurait pu être sur Zoom. Ça aurait pas pu être moins pire, mais qualité d'Internet, à même la province, des fois, ça bug à la télévision. Fait que, imaginons d'avoir des pays du monde entier qui se connectent sur Zoom. C'est peut-être pas l'idéal. Bon, après ça, est-ce que ça justifie les dépenses et tout ça? ça fait partie de la game. T'sais, le G20, ça fait partie de la game. Dans le cas de Justin qui est en Inde, bon, ça ne sera peut-être pas nécessairement concluant comme on le pensait que ça le serait, mais il y avait besoin quand même de se rendre dans l'Asie du Sud pour justement trouver les alternatives à la Chine comme on essaie de le faire depuis plusieurs semaines, ben plusieurs mois, pour avoir des alternatives à la Chine dans notre économie, que la journée que la Chine va décider de fermer toutes ses portes, ben on ne soit pas pogné les culottes à terre, comme qu'on dit. Fait que voilà. Poiliev reste un personnage très, très particulier, très intéressant à suivre. Après ça, ça va dépendre des propositions qu'il aura, mais pour l'instant, parce que les sondages sont de son bord, il est extrêmement confiant. Mais est-ce que cette confiance-là va durer jusqu'à l'éventuelle élection? Sait-on jamais. Et encore une fois, tout va dépendre du programme et des grandes lignes qui vont en ressortir. Parce que c'est pas tout de se poser en victoire, mais c'est d'arriver avec des idées que les gens vont, entre autres, apprécier et qui ne seront pas en désaccord. Là est complètement l'exercice à réaliser. On s'arrête une dernière fois au retour. La conclusion de l'émission de cette semaine, ici même sur les ondes du 88.3. C'est FAC et de chez 94.3. C'est fun de Lisandre qu'on vient d'entendre en musique. Tout de suite, bonne annonce du dernier film. Du dernier film que j'ai vu en salle. Film Gran Turismo qui a pris l'affiche il y a quelques semaines déjà.
C'est qui le meilleur pilote à ton avis?
Je sais pas, Blurry peut-être?
Tu me niaises, il est nul! Yann, tu peux pas passer tout ton temps à jouer à des jeux vidéo en rêvant de piloter des autos de course.
Papa, c'est toi qui nous as dit de faire quelque chose qu'on aime.
Sais-tu combien ça coûte des autos de course? Regarde autour de toi, c'est pas notre monde.
C'est quoi ça?
Un concours. Les meilleurs joueurs de Gran Turismo au monde. Et la chance de courir chez les professionnels.
Attends, t'es sérieux là?
Très sérieux. Attends, tu penses vraiment que des petits jeunes qui jouent à des jeux vidéo dans le sous-sol de leurs parents peuvent piloter des bolides qui vont à plus de 300 km/h? Ils vont se faire déchiqueter en mille morceaux. ça marchera pas. Les pilotes de course sont des athlètes d'élite. Ça, ce sont juste des petits gamers, mes grichons.
C'est pour ça que t'es là?
Allez, dîner! Ça doit être une nouvelle expérience pour vous de bouger vos jambes! T'as vomi sur mon gazon?
Pendant la course, la température du cockpit va monter à 60 degrés Celsius. La force G sera deux fois plus forte que ce que ressent un astronaute au décollage.
Moi, rien du tout!
Hé, as-tu des points bonus pour ça dans le jeu? C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est de la folie. Mais de tous les pilotes de salon que tu m'as envoyé, c'est le meilleur. T'as réussi.
Ouais!
Bienvenue dans l'équipe Nissan. C'est quoi la suite des ligues majeures? Les autres pilotes vont te détester.
Oups, c'est quoi ton putain de problème?
Ça fait partie du jeu, c'est ça, piloter.
Si tu quittes ta ligne dans le jeu, tu recommences. Si tu la quittes sur la piste, tu peux mourir.
Je connais le circuit. J'ai couru dessus un millier de fois.
Alors, sorti début du mois d'août, Gran Turismo qui a pris l'affiche au cinéma, que se dis-je bien. Drame sportif, un jeune Gallois très habile en jeu, au jeu Gran Turismo est sélectionné par l'équipe Nissan pour participer à de vraies courses automobiles. Évocation convaincante, parcours incroyable de Gian Mardenborough, récit conventionnel, réalisation imaginative et percutante, bons interprètes, ce que disait Mediafilm notamment. Je partage l'avis au sens où, et ça aussi ça a été relevé, David Harbour qui joue le coach de l'équipe des jeunes vole un petit peu le show, même si c'est supposé être un drame biographique sur le coureur en tant que tel, sur la foi que Nissan a pensé que des joueurs de jeux, ben en tout cas l'employé de Nissan qui est interprété par Lindo Bloom, pensait que c'était une bonne idée d'avoir des joueurs de jeux vidéo qui connaissent les circuits de Gran Turismo par cœur, allait faire de bons compétiteurs. Là-dessus, comme c'est basé sur des faits réels, on pouvait pas les faire gagner premier à la fin du film. Donc pour ça, c'est intéressant qu'il ne soit pas premier de la course. À part de ça, c'est un film de jeux vidéo, oui, parce que le film commence avec comme une espèce d'histoire et d'hommage au créateur de Gran Turismo, qui est particulièrement étrange. On est en studio de création du jeu. Puis, à la limite, c'est quasiment... Ça aurait pu être un autre film à part entière, le making of de Gran Turismo, parce que les bruits de char sont des vrais bruits de char. On a enregistré le son des vrais voix. Moi, c'est ce que j'ai retenu le plus, je pense, la partie documentaire de Gran Turismo. Quand c'est pas supposé être un documentaire, ceci dit, fait que c'est plus un infopub pour le jeu. Et ça, ça a été reproché d'ailleurs. C'est un bon divertissement. Oui, les courses sont cool, correctes. Fait que tu sais, les gens qui veulent aller voir un film de course automobile, c'est pas le meilleur film. T'sais, mettons, un Rush avec Chris Hemsworth va être... Et que c'est là, à ce moment-là, c'était de la course de la course dans les années 40-50. Fait que tu sais, même 60, sauf erreur. Fait que tu sais, à la limite, ça, il y a un peu plus d'intrigue. Ben, même si ça reste les deux personnages, il reste quand même que l'intrigue dans Gran Turismo, disons que, on devine que ça va bien se finir pour le personnage qu'on suit depuis le début. T'sais, on l'entend dans la bande-annonce, il passe les qualificatifs de Nissan. Fait que on s'entend que là-dessus, c'est pas la plus grosse surprise des années 70, Rush avec Chris Hemsworth. Fait que tu sais, est-ce que les amateurs de course automobile vont trouver leur compte? Peut-être pas. Est-ce que les amateurs de Gran Turismo vont aimer ce film-là? Peut-être pas. Parce que contrairement à un Mario qui a un univers, des personnages qui peuvent leur arriver toutes sortes d'affaires, ben ça se peut, un film de jeu vidéo de Mario. Dans le cas de Gran Turismo, qui est un jeu vidéo qui, à la base, c'est ça, c'est des jeux de course. Tu sais, qu'il n'y a pas d'histoire autre que fait la course. Fait que, tu sais, à moins qu'on mette le mode carrière, mais encore là, c'est gagne le plus de courses possible. Fait que, tu sais, ça devenait difficile de faire un film là-dessus. Est-ce que le pari est réussi? Moyen. Est-ce que sur grand écran, c'est le fun? Oui. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre qu'il passe à nouveau dans 3 ans à la télévision un vendredi après-midi? Effectivement. Mais en tant que tel, c'est un film correct. Est-ce que ça vaut le déplacement à courir à grande vitesse? Pas nécessairement. Mais ne serait-ce que pour justement l'ambiance crédible, tu sais, le film se peut. Alors, encore une fois, David Harbour vole le show un petit peu en tant que ancien pilote traumatisé de son expérience à lui, qui coach du monde à être le moins traumatisé possible. Oui, il vole un peu le show, mais après ça, c'était intéressant. C'est une histoire que je connaissais plus ou moins personnellement. Mais en tant que tel, c'est assez représentatif de ce que ça peut être. Donc, voilà pour ça. Gran Turismo à voir quand il passera à TV. Disons ça de même. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. Ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Je les ai eus, au moins, pour la conclusion. On se dit à la semaine prochaine. Salut!
Ses propres tourments, allez, je t'emmène au vent. Mais nous
écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
La soirée la plus festive de l'année sur le campus est de retour! Le jour de la rentrée revient le 13 septembre prochain avec une programmation hallucinante. Ne manquez pas Pelch, Marilyn Léonard, Larry Kidd, Naya Ali, Rhymes et encore plus. Le show de la rentrée, c'est un événement de la CADUL, un projet 100% étudiant et 100% gratuit.